Chers amis, bonsoir, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Marcel Cochet, qui vient à chacun des rendez-vous, chaque fois qu'il publie un livre. Cette fois-ci, ce n'est pas un livre, c'est une postface d'un très gros volume qui s'appelle « Après Jésus, l'invention du christianisme », qui recueille beaucoup de contributions d'auteurs tout à fait éminents. J'ai présenté cette postface dans un royaliste il y a quelques mois et Marcel Cochet a accepté de venir présenter cette réflexion sur l'histoire du christianisme. Cher ami, vous avez la parole.
Merci de votre hospitalité renouvelée, toujours chaleureuse et sympathique. Nous allons parler donc d'un sujet de très peu d'actualité apparente, qui nous emmène très loin de nos eaux habituelles, mais qui, cependant, je crois, appelle la réflexion indépendamment de toute référence confessionnelle et dans un but purement spéculatif. Car nous avons affaire avec c'est pas longtemps le christianisme, en fait, on reprend les termes des éditeurs du ouvrage sur le texte que vous avez bien voulu nous remarquer. Cette invention du christianisme représente un événement qui doit faire réfléchir toute personne qui cherche à comprendre l'histoire humaine pour, par sa nature et sa place. Le titre d'ailleurs que j'ai donné à ce texte, qui n'aurait pas dû être une postface, mais je ne pense pas dans la cuisine éditoriale, dit bien ce dont il s'agit. Une histoire qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Car si l'on raisonne dans les termes habituels de l'intelligence des phénomènes historiques, qui nous sont liés, rien, tel n'aurait pu se produire. C'est quelque chose qui est un événement complètement hors norme. Un prophète juif, comme il y en avait beaucoup d'autres dans la Palestine de l'époque, condamné à mort, exécuté, et qui va devenir, dans une contrée très exagérée, qui devait mentir. Et je prends la partie de l'attente, ça m'arrête les conquêtes romaines, qui va devenir le fondateur d'une des plus grandes religions universelles, comme on dit dans l'histoire de la religion, et pour nous, aujourd'hui, le fondateur du quotidien considéré comme la matrice première dont a pu sortir le monde européen occidental tel que nous le connaissons. Comment le langage même, lui aussi chrétien, dans lequel prêche ce Jésus, a-t-il pu atteindre le cœur du plus grand religieux que le monde antique est connu, et le conquérir de l'intérieur. C'est un événement tellement extraordinaire, tellement invraisemblable, que pendant longtemps, les apologètes de la religion chrétienne ont vu le signe de sa provenance surnaturelle. Seule la providence pouvait déterminer un tel événement. Et encore une fois, on comprend très bien le raisonnement qui conduit à cette thèse, qui a le mérite pour les esprits laïcs encore aujourd'hui, qui sont un peu attentifs, de leur donner la dimension de cette chose qui n'aurait pas dû se produire, selon que nos critères à Marseille vont juger simplement, c'est pas en mesurant le nombre de volumes vendus des évangiles et le nombre de passages avec les communisiens du prophète en question, qui permet d'apprécier évidemment le retentissement qu'a eu sa prédication. et du point de vue d'une réflexion tout à fait laïque sur l'histoire en général, cet événement nous oblige à nous demander justement par quel canot, de quel fait peut-il se produire. Il échappe complètement à la manière habituelle dont nous comprenons les événements historiques. Et c'est ce défi-là que j'ai essayé de relever en inscrivant d'ailleurs cette invention du christianisme dans le fil de ce qui a été auparavant l'invention juive du monothéisme. Un autre de ces événements que rien ne permet de cataloguer d'avance dans le répertoire des faits habituels du processus historique. Alors, je vais rappeler très très vite l'analyse que j'avais proposée jadis, j'ai eu l'occasion de reprendre d'ailleurs dans le volume qui précède celui-là, qui s'appelait tout simplement Jésus, sous une forme très brève. Ce texte aussi aurait dû être très bref, saisi par là. Le sujet est beaucoup trop long. Et les éditeurs ont eu la gentillesse de l'accueillir vers moi, là que j'avais outrepassé les cartes qui m'avaient assigné. Voilà, mais le sujet est apparu de vérité. Je rappelle donc très vite ce qui me semble avoir été le cœur, en fait, le point de départ, c'est le mystère Jésus divin, si on le regarde comme un homme admirable, comme disait Rondra, et non, qui n'empêche pas d'ailleurs de faire coïncider les deux, comment un charpentier des idéaux a-t-il pu avoir ce pouvoir magique de mobiliser à ce point les imaginations et les esprits dans le monde qui était sien. Eh bien, je crois qu'il y a une sorte de génie à l'œuvre chez Jésus qui est de répliquer l'invention mosaïque, la fondation du monothéisme, la fondation juive, proprement dit, sur un autre plan. Pour aller très vite, cette fondation juive, qui s'est portée en Milan, avec beaucoup de vicissitudes, représente l'exploitation de quelque chose qui est préparé dans la matrice matérielle que connaissent bien les Juifs de l'époque, petit peuple encerclé par des grands empires du genre méchant, qui ne traite pas spécialement avec amitié, mais empire plus travaillé par une fermentation spirituelle qui aboutira dans ce qu'on a maintenant l'habitude d'appeler l'époque axiale, c'est-à-dire le bouleversement spirituel qui vont donner naissance en fait aux spiritualités qui restent toujours de par le monde aujourd'hui, du confucianisme en Chine, au judaïsme, en allant jusqu'à la philosophie grecque. Le signe par excellence de cette productivité impériale étant ce mystère de pharaon Akhenaton qui aurait instauré avant le monothéisme qui a été ensuite balayé historiquement par les sortes de réactions religieuses. Mais ce qu'on peut montrer, c'est que si, à beaucoup d'égards, la dynamique impériale crée les conditions intellectuelles de quelque chose comme un monothéisme, elle ne peut pas l'accomplir. Et de ce point de vue-là, l'échec du pharaon est tout à fait typique. On peut le répercuter, c'est un analyse. Mais cette invention mosaïque, je suis obligé d'aller très vite, pardonnez-moi, c'est juste pour rappeler le terme de fond, parce que c'est ce qu'on va retrouver donc, par récurrence dans l'histoire ultérieure, aboutit en fait à un paradoxe. Le dieu monothéiste, c'est au départ le dieu d'au-dessus des dieux des autres. Tout simplement. Les petits exploitent les juifs, en l'occurrence, exploitent les ressources spirituelles qui sont présentes dans les empires que vous connaissez, vous pouvez être prisonnier, plus ou moins esclaves, plus ou moins déportés, selon les analyses diverses qu'ils connaissent. Même à l'époque, on a pu faire l'hypothèse que Moïse était en fait un égyptien. On ne le saura jamais, évidemment. Ils exploitent cette ressource en posant un dieu au-dessus des dieux des peuples qui les dominent. C'est ça le ressort basique de l'invention monothéiste qui crée donc un dieu d'au-delà des dieux. Avec tous ces équivoques qui vont résulter, qui sont le cœur de ce que les prophètes d'Israël vont arrêter de répéter, qui est la retombée dans l'idolâtrie. Parce que c'est le dieu d'au-dessus des dieux, mais on peut s'arranger avec eux, on met tout ça un peu dans le même sac, puisque c'est aussi trivialement chose aussi sorcière. Ce dieu d'au-delà des dieux est le dieu, c'est la marque de sa fondation, d'un seul temps. C'est le dieu potentiellement universel, puisqu'il est le plus grand des dieux, il est capable de régner sur les autres dieux, mais il est le dieu d'un seul peuple, qui se trouve être accusé à un peuple dominé, parce que la domination romaine a achevé de rendre le sujet à nouveau. C'est dans ce contexte de l'occupation romaine qui intervient la prédication de Jésus, qui suscite par ailleurs d'autres mouvements de révolte. Et la réponse à cette contradiction, qui est dans le monothéisme à Dieu potentiellement universel, puisqu'il peut dominer tous les autres dieux, qui reste le dieu d'une alliance particulière avec un peuple spécifique. Ça va devenir le messianisme. Qu'est-ce que c'est que le messianisme juif? Quelque chose de tout à fait original, c'est un impérialisme mystique. Le messie, c'est celui qui l'envoyé de ce dieu d'au-delà de Dieu qui assurera la victoire de son peuple sur les dominations que subissent son peuple. Et Jésus est un de ces messies. Sauf que c'est une invention, il procède à l'invention de quelque chose, une figure parfaitement originale, c'est un messie à l'envers. Il ne promet pas de dominer l'impérialisme, sa formule, c'est « mon royaume n'est pas de ce monde ». Il ne s'agit pas de dominer les dominants, il s'agit de sortir de cette logique de la domination par une foi dans un Dieu qui est au-delà de cette histoire triviale de rivalité entre les peuples qui s'affrontent. C'est le secret du règlement de la figure de Jésus, c'est l'humilité, c'est pas la puissance, c'est le contraire de la puissance, c'est le contraire de la domination, c'est l'amour au lieu de la force. C'est ce Jésus à l'envers, qui, au lieu de vaincre, finit crucifié par son peuple, qui est le ressort de l'invention chrétienne. C'est le point de départ. Et précisément, là où on voit la fécondité de cette figure qui va parler à travers les siècles. Ce n'est pas simplement un effet immédiat. Cette inversion messianique va devenir un ressort d'une fascination qui va s'exercer des siècles durant et qui peut dire, ça vient continuer de s'exercer. Donc c'est le sort du christianisme aujourd'hui, sans question pour d'autres raisons. Le problème d'emblée, donc, pour l'invention du christianisme, c'est la reconnaissance de cette messianité du juif. Et ça suppose, évidemment, quelque chose qui commence par un improbable total. Il est traîné devant les autorités, il est condamné, il meurt. C'est la foi dans la résurrection. C'est ça la fondation du christianisme. C'est que sans cet acte de foi de la part de ce cercle très étroit, de ses disciples, la réalité des faits qui sont relatés d'une façon très claire dans les évangiles, mais c'est un très petit cercle, ce qui va soulever ce cercle et qui est la base qui scelle la messianité de Jésus est messie parce qu'il est ressuscité. Il est donc bien l'envoyé de Dieu pour le salut des hommes qu'il a racheté sur la croix. C'est le phénomène initial de cette invention du christianisme. Après tout, généralement, on connaît raisonnement comme les historiens que j'utilise, et d'ailleurs comme les autorités de l'époque, un agitateur religieux, on le condamne sur des barrages, c'est fini. Les disciples se dispersent, voilà. Au maximum, il y a un autre bourreau, comme on dit aujourd'hui, de la même trempe, et les autres rendent leur foyer, on n'en entend plus parler. Et bien, c'est, là, c'est le contraire. Ils se soudent autour de cet article premier de foi, Jésus est ressuscité, il était donc bien le Messie annoncé, puisqu'il a triomphé de la mort. La victoire vraie du Messie est dans sa victoire sur la mort, pas dans sa victoire sur les dominations du monde. Dans un tout premier temps, à quoi a-t-on affaire à une toute petite secte juive, comme il y en avait beaucoup, en fait, à l'époque, hein, puisque le judaïsme a constitué une orthodoxie, ça va être une véritable humanité, même si le judaïsme rabbinique ultérieurement a durci ses traits. On a un acte de fondation dans ce credo, mais qui aurait pu rester à l'intérieur du monde. Là aussi, selon la logique historique habituelle, ne serait-ce que pour des raisons de langue, de culture, c'est une secte qui pratique un judaïsme particulier et qui gère comme ça un petit prosélytisme en Jérusalem et dans les environs. Mais ça va pas loin. C'est là qu'arrive un autre événement totalement improbable, mais ce que je veux souligner, pardonnez-moi, j'oublie un élément important, cette croyance dans la résurrection de Jésus, c'est l'entrée en scène d'une dimension spirituelle qui n'existe pas, qui s'appelle la foi. Car c'est un événement contre toute évidence. Hein. Rien de tel n'existe dans les religions anciennes. Il n'y a pas besoin de foi. Il y a la tradition à laquelle on obéit, vis-à-vis de laquelle on monte de l'anxiété, ça n'implique pas un acte de croyance dans quelque chose qui est hors des normes, hors de que l'intelligence spontanée peut comprendre. Il n'y avait rien de tel dans le paganisme divers et variés de l'époque, ni d'ailleurs dans le judaïsme, qui est une religion de l'obéissance à la loi donnée par Dieu à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. C'est tout simple. J'ai pas consécuté. Là, on entre dans un nouvel espace spirituel. La foi dans la résurrection qui implique la foi dans le salut du genre humain. Mais encore fallait-il l'explicitation de cette dimension supplémentaire, et c'est là qu'intervient un autre fait contingent, mais décisif, et que rien ne pouvait laisser prévoir, c'est l'arrivée de l'homme qui va faire ce travail d'explicitation de ce qui est inscrit dans la messianité juive. Celui que nous connaissons comme ça, comme Saül de Tarse, qui est lui-même un converti, converti fameux, et qui n'est pas n'importe qui, parce qu'il a ce qu'il faut pour faire du christianisme la religion, aujourd'hui, l'incident, si vous me permettez, c'est un grand débat et la mode chez les historiens, c'est relatif, c'est pas folle, on en a fait cette place-là, c'est pas terrible, c'est pas si important, on se trompe totalement. C'est l'homme des génies de cette histoire, de fait que parce qu'il est un juif, quand il connaît, il est très orthodoxe, puisqu'il se faisait même dans un premier temps un persécuteur des chrétiens comme fait d'hérésie par rapport au judaïsme. Donc il connaît intimement le judaïsme et il a une autorité même en la matière, on le dit. Il est de bonne famille, donc il a été formé à ce qui à l'époque est le sommet de la culture, la culture grecque. En tout cas, les lettres grecques. Là, c'est un débat, est-ce que Paul connaît la philosophie grecque, à mon sens? Non. Mais il connaît les lettres grecques, c'est-à-dire
la politique, la...
C'est vraiment ça. On voit qu'il était très bien débuté. Il a le sens littéraire, ça écrit là. Et puis, dernier point, il est citoyen romain. Il est l'un des hommes du moment où l'Empire s'élargit en attribuant la citoyenneté à toutes les personnes qui appartiennent pas directement à la noyau initial de la romanité. Il s'agit d'incorporer dans l'Empire une affaire de plus en plus large de citoyens. Il est donc quelqu'un qui sait ce qu'est Rome. Moi, je n'étais pas sûr que la plupart des gens qui entourent la mesure le concernent sa terre. Il sait ce qu'est la géographie de l'Empire romain. Et d'emblée, c'est un homme de la géographie de Rome qui va être un missionnaire prodigieux, parce que c'est par ailleurs un homme d'énergie très importante, avec une dynamique prosélyte hors norme, et qui va, lui, véritablement donner l'explicitation. Les épîtres de Paul sont l'explicitation de ce que signifie la messianité de Jésus, qui restait une espèce de figure symbolique visiblement fascinante pour tout un cortège de ses disciples, mais qui, en même temps, restait une foi sans véritable doctrine, sans véritable conception à l'appui de ça, et en particulier, Paul va faire deux choses décisives qui sont, au sens, c'est la véritable invention du christianisme. D'une part, il va souder l'histoire chrétienne, si tant est qu'on puisse déjà parler d'une histoire chrétienne, à l'histoire juive. Il va inscrire la prédication de Jésus et la venue du Messie à l'intérieur d'une histoire qui a commencé avec la révélation de Christ. Jésus explicite ce qui était donné comme le premier réceptacle de la révélation sous la forme que nous connaissons nous comme l'Ancien Testament. Donc, parce qu'il aurait pu au contraire souligner la rupture. Non. Il lut le sort du nouveau croyant à l'histoire du juif qui est une préfiguration de l'anticipation. Et Jésus est en fait une sorte de nouveau Moïse qui vient apporter en plus de la loi et au-delà de la loi la vision du salut universel. C'est le deuxième point décisif de son intervention. C'est qu'il est le premier. Alors, on a pu, Alain Badiou a publié jadis un livre qui a fait un peu de bruit, qui disait beaucoup de choses plus. C'est l'invention de l'universalisme. Le christianisme est la religion non plus seulement d'Israël, du peuple de Dieu, mais la religion de tous les hommes, y compris les femmes. Quelque chose qui, dans le contexte de l'époque, et par rapport à ce qu'était l'orthodoxie religieuse juive, a un acte de quelques conséquences, parce que la formule, il y a ni juif, ni grec, ni l'être, ni esclave, ni homme, ni femme, tous peuvent être des croyants en Christ, tous ont droit au salut universel. Donc, là, on a véritablement le noyau dur de l'invention chrétienne, qui je laisse de côté. Tout le contenu théologique sur lequel on continue d'écrire force thèse théologie sur la pensée de saint Paul et la définition première de la foi chrétienne qui l'articule. Ce que je veux juste souligner, c'est ce que représente qui va faire le trait parfaitement original de la religion chrétienne, qui constitue un problème à l'intérieur de ce qu'on appelle les religions du Moyen-Âge. Le cœur de la religion chrétienne, c'est un mystère, qui est ce mystère de l'incarnation. Dans la religion mosaïque, il n'y a pas de mystère. Dieu a donné la loi à son peuple. Et ensuite, la question qui se pose, c'est celle de l'observant de cette loi. Il est responsable, qui doit. Mais au contraire, en même temps, cette intervention de Dieu parlant de sa volonté dans l'histoire est quelque chose d'absolument original. Toutes les religions anciennes, qu'on appelle les paganismes, sont des religions de la tradition. Comment ? Parce qu'il y a une question de fond qui est posée dans l'idée d'une vérité religieuse. C'est, d'où la connaissons-nous ? Elle est au-dessus de nous. Par quel truchement nous est-elle parvenue ? La réponse qui domine tout le passé de la religion, c'est la réponse par la tradition. C'est de fondation. C'est quelque chose qui nous est venu avec la mise en ordre du monde. Mille récits différents, mais qui revêtent tous à cette origine. Là, on a quelque chose de tout à fait différent, et il n'y a que deux manières possibles. Ou les dieux sont donnés naissance à l'origine avec nous, ou les dieux nous parlent. Et c'est ce que sont les monothéismes. C'est leur originalité, c'est la rupture avec le principe de tradition. Ce n'est pas la tradition qui nous donne la vérité religieuse, c'est une intervention de Dieu dans l'histoire. Mais l'intervention de Jésus, comme fils de Dieu, elle est tout à fait originale, parce que Jésus n'est pas venu dire « voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que vous devez croire ». Il a prêché d'exemple, ce qui permettra aux diagnostic du dimanche passé, comprenant, je veux dire, Jésus, un homme admirable, par le contenu de son message. Et en effet, on peut le prendre comme tel. Il n'a rien fondé du tout. Il a eu des paroles, qui sont rapportées dans les évangiles. Mais il n'a pas dit, il n'a donné aucune loi. Il a donné des exemples et il a annoncé. C'est une annonce. Et en même temps, cette annonce est un mystère. Pourquoi Dieu, à un moment de l'histoire humaine, intervient, sous la forme de l'envoi de son fils, pour annoncer le salut possible de l'humanité pour réparer la faute du premier homme. Dogmatiquement, la formule en vigueur. Et ce fait du mystère a une importance décisive, je vais y revenir pour finir à propos de l'Église, parce que ça veut dire que le christianisme va être une religion de la spéculation, de la réflexion, et pour ainsi dire, une religion destinée naturellement à la théologie. Parce qu'il s'agit, au fond, de comprendre un mystère qui, à la fois, dépasse totalement la raison humaine et, en même temps, est relativement accessible à la raison par le fait que le monde est susceptible d'être compris par la raison. Et le monde étant l'œuvre de Dieu, il veut bien y avoir un moyen quelconque d'en comprendre la raison d'être dans, comme sagesse divine. Ça veut dire que ça va faire du christianisme, on va le dire très grossièrement, une religion philosophique. Et c'est une dimension qui va tellement peu de soi que je crois que c'est dans ce contexte et en fonction de ça qu'il faut comprendre ce que va être le surgissement du troisième monothéisme quelques siècles plus tard sous la forme de ce que nous appelons l'islam. Où on a un retour par rapport à cette religion du mystère, à une religion de la révélation, sous la forme d'une dictée de Dieu à son envoyé, le prophète, qui redéfinit une loi qui ne se discute pas. Et à mes yeux, là aussi je parle très rapidement, évidemment que tout ça demanderai rapidement de m'exposer, je ne peux pas me permettre, je suis ici, pour des raisons de temps, la clôture philosophique, intellectuelle, théologique de l'islam est pour ainsi dire inscrite dans cette donnée première. C'est-à-dire qu'il y a un message de Dieu en personne, donné par l'intermédiaire du prophète, qui se suffit à lui-même. Dieu a dit qu'il veut. Alors lui, il va y avoir après toutes sortes de commentaires qui vont se surajouter à cette révélation primordiale, mais l'essentiel est écrit d'emblée. On sait de quoi il est question, il n'y a pas lieu, après tout, pourquoi se prendre la tête, sinon dans les applications, parce qu'il faut des juristes hein, qui vont dire, voir comment, dans quelles conditions on peut exactement appliquer la loi divine, et on la connaît. De ce point de vue-là, l'islam est un anti-christianisme par excellence, hein, il substitue l'évidence au mystère. C'est vraiment une ligne de partage fondamentale qui sont données d'emblée. Alors que le judaïsme, lui, est encore autre chose, puisque c'est une religion de la loi et de l'observance d'une loi donnée de Dieu qui n'existe pas d'emblée une théologie. Il y a une loi. Voilà ce que Dieu demande de faire. Donc, il y a le judaïsme n'incorpore pas cette dimension du mystère, mais en même temps incorpore la dimension de l'interprétation du commentaire et de ce que veut vraiment dire la loi et le mystère de Dieu par rapport à la loi qu'il nous a donnée. Que veut-il vrai? Seigneur, par l'Ancien Testament en permanence, qu'est-ce que Dieu veut de nous, véritablement? On est dans des espaces spirituels, à partir de cette simple donnée des modalités de la révélation dans des univers spirituels profondément différents. Et je crois que c'est dans l'origine qu'il faut le trouver, alors après, bien entendu, les historiens, à juste titre, vont parler contexte culturel, situation exacte dans des civilisations, dans des systèmes politiques, et exerce leur conscience, c'est évidemment indiscutable, mais il y a quelque chose qui se joue en deçà et qui obéit à une logique qui n'est pas celle des événements historiques ordinaires. Donc, je n'entre pas dans la doctrine de Saint-Paul, on va être très loin, qui est tout simplement une interprétation. La doctrine, Badiou dit alors en exagérant, où Saint-Paul n'a qu'une chose à dire, il est ressuscité. Il exagère un peu, parce que c'est beaucoup d'autres choses. Mais substantiellement, c'est vrai que le sujet de l'homme est. C'est ce que veut dire. Là où Badiou rate quelque chose, à mon sens, c'est qu'il ne voit pas ce que veut dire qu'il est ressuscité. C'est en fait la signification même de la messianité de Jésus, c'est ça. C'est tout ce que ça implique. C'est une proposition simple, mais très lourde d'implications métaphysiques et spirituelles. Mais l'autre, voilà pour la partie, si je puis dire, strictement interne à la mise en place, à l'invention du christianisme, il faut passer maintenant à deux problèmes, eux aussi totalement surstupéfiants par la nature de leur développement, qui est donc la conquête de Rome par le christianisme, et autre problème tout à fait curieux et troublant, dont aucune explication positiviste n'est possible, c'est l'invention chrétienne, c'est l'invention d'une église. C'est-à-dire une forme d'association religieuse totalement originale qui n'a d'équivalent dans aucune autre tradition religieuse. Et là aussi, on est dans une histoire qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Il y a une création chrétienne parfaitement originale et il y a aussi une efficacité chrétienne totalement étrange. Il faut se figurer. Il faut essayer de se mettre dans la tête, il y a pas besoin d'être un grand connaisseur de l'histoire romaine, des quelques souvenirs scolaires qui restent à la fin. qui fait que le niveau d'être, sur ce plan en particulier, vous imaginez un sénateur romain formé au culte grec, hein, c'était quand même chic de l'époque, venant voir un Palestinien dépenaillé lui parler d'un cri de précipité qui aurait une idée bizarre de venir s'installer en Galilée. Et il aurait du mal à y croire. C'est spontanément incroyable. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui psychiatrie. À l'illuminer, c'est une expérience incroyable. D'ailleurs, on a un épisode fameux qui est relaté dans mon ange, qui a fait beaucoup de choses. C'est la rencontre, dans un autre registre, de Saint-Paul avec les philosophes d'Athènes, qui existent toujours. Les écoles philosophiques sont devenues stériles, on ne prend plus de grands auteurs, mais elles sont toujours là. C'est même une vie philosophique, la langue des philosophes d'Athènes, et Saint-Paul, qui divers autour de Méditerranée, se trouve, va les rencontrer, et la patate. Ils comprennent, ça dépend encore de quoi il est question. C'est un discours complètement en dehors de tout ce qui peut leur paraître la raison philosophique et la recherche d'un accord avec la sagesse cosmique à laquelle nous sommes maintenant, quand on a mené une vie philosophique. Et le langage de Paul est folie. Hein, la folie est fameuse, la folie de la raison, la sagesse, la foi. C'est le contraire absolu de ce qu'est. Quelqu'un qui est formé à la tradition grecque peut encaisser comme propos. Mais c'est la même chose pour ce qu'est la culture dominante des élites romaines. C'est du peuple romain, je veux dire. Alors, là est du point de vue de l'intelligence historique, comment ce monde romain si fier de lui, en plus, si dominateur, comme des satisfacteurs, qui n'en fut jamais, peut-il se ranger à une doctrine qui est à mille lieues de tous les repères culturels frontaliers qui sont les siens. Et c'est pourtant ce qui s'est passé. Alors ça a pris du temps, ça a cheminé à bas bruit, souterrainement. Ça s'est fait lentement, et ça s'est fait. Comment est-ce que cette conversion spirituelle, ensuite après des aspects c'est bizarre, il fallait, comment ce message spirituel a-t-il pu devenir intelligible et accessible à des Romains qui, content, avaient ancré dans la foi, dans leur Dieu et dans leur empereur, à partir du moment à partir de la fin de la République. Et c'est là où je ne vois des hypothèses, on est évidemment dans le champ de la spéculation et de l'hypothèse, personne ne prouvera jamais le genre de choses que je peux risquer. Mais il me semble qu'on voit justement travailler à Rome sur un mode intéressant, parce que non pas positif, mais pas sous la forme production d'une religion indépendante. C'est même très frappant à un moment donné, si on le sait, par exemple, j'en fais parler, du fait, entre autres, de la diffusion de l'Empire et du retour civilisationnel qui s'en suit, où on met de plus en plus de soldats qui sont des mercenaires, en fait, dans les armées, dans les légions romaines, les légionnaires eux-mêmes vont dans des contrées où ils sont en contact avec d'autres cultures, ils ramènent des cultes, etc. Très populaires chez les militaires romains. Bon, tout ça est connu, mais il s'agit de grand chose avec la foi chrétienne. Et ce qui se passe dans l'Empire romain, c'est une espèce de désagrégation des religions établies à Rome par le phénomène de l'Empire et de son expansion. Alors, il faut partir de nous donner très simple, hein, au moment où Jésus fait sa prédication, il y a la religion romaine, c'est une religion de destruction, c'est la religion civique. Des dieux et des rites. Des rites qui occupent une place énorme dans la vie de la cité. C'est une religion où il s'agit de rappeler en permanence, par le rituel, la perpétuité de la fondation romaine et la sagesse des lois qui ont présidé à la création de la cité. C'est une religion d'entretien de tous les lieux civils. Et puis, un peu plus tard, en fait, ça commence à l'époque de Jésus, un peu plus tard va se développer une deuxième religion romaine, très étrange, qui est le culte impérial, qui n'est pas le culte de l'empereur en personne, mais le culte de ce que représente l'empereur, de l'impérium, ce culte qui est justement le signe de la vocation surnaturelle de Rome à dominer la terre entière. Hein, puisque, évidemment, c'est faux. Et c'est ainsi que se représente la géographie romaine. C'est le monde entier. Le reste, sont quantité négligeable. Même si les Romains sont très bien, c'est commerce. Les gens n'étaient pas très loin. Hein. Mais ça fait pas partie de la représentation commune de l'ère impériale. Évidemment que d'emblée, la dynamique de conquête qui est celle de l'Empire, va avoir un effet religieux direct, qui est la nécessité d'absorber d'autres divinités que celles qu'on connaît à Rome. Pas de problème. Le paganisme, il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup parce qu'il est très tolérant. Un dieu plus, moi, ça va quoi. C'est pas grave. On rapatrie les divinités des peuples qu'on annexe et qu'on domine à l'intérieur du panthéon romain. C'est une sorte de syncrétisme et d'une élite a fait une très belle analyse de ce phénomène, et il parle, lui, il voit ça en termes économiques. Hein, il dit les Romains augmentent leur capital religieux en s'agrégeant des dieux supplémentaires, qui fait partie en quelque sorte du stock tutélaire qui veille sur les cités. Un peu après la prédication de Jésus, se développe donc ce culte impérial qui va lui donner au culte, non pas encore une fois de la personne de l'empereur, mais de ce que représente l'Empire, une dimension très importante. Et néanmoins, en quelque sorte, je dirais, la religion impériale est appelée par le fait impérial lui-même. Comment rendre compte de cette dynamique à partir des seuls dieux de la cité. C'est un peu petit par rapport à cette tradition justement immobile, hein, qui est le culte de la permanence et de l'éternité de Rome, qui est destinée à traverser les siècles, elle n'explique pas l'expansion et le règne beaucoup plus large. Et c'est là qu'intervient le culte de l'empereur. Il donne, en fait, une justification religieuse à la dynamique, au phénomène de l'Empire, à sa dynamique. Il faut un empereur surnaturel pour que l'Empire soit surnaturel, parce que souvent, il comprend pas ce que c'est là. Donc, il y a deux cultes, et dans les rapports, c'est une matière inépuisable pour des historiens, des philologues, qui creusent des textes à la recherche, des indices, des rivalités, des liens entre ces deux religions. Mais ils ont un cadre religieux très bien en place. Et néanmoins, ce cadre religieux est décomposé de l'intérieur parce que donne à penser l'Empire. Il s'agit de comprendre cette destinée extraordinaire. Et le christianisme aura une réponse. L'Empire romain a existé pour que la prédication du Christ se diffuse. et ça sera la grande réponse apologétique. Le culte civique, c'est un culte de la tradition et qui ne s'applique pas à la réalité nouvelle de l'Empire qui se développe. Et le culte impérial est suspendu à une chose qui est la victoire perpétuelle de Rome, qui est l'attestation de sa destinée surnaturelle. Mais à partir du moment où la mécanique se dérègle et où les légions commencent à subir revers sur revers, et où la survie de l'Empire devient un problème permanent, les derniers siècles de l'Empire romain, c'est la cité à piéger, qui avait des revers terribles. C'est inconnu. C'est parti, mais on en fait des films historiques. Qu'est-ce que cette religion peut dire de ce que nous sommes? Je pense que c'est là que ça s'est passé. C'est-à-dire le christianisme est arrivé comme une réponse à quelque chose que la religion romaine traditionnelle ne pouvait pas fournir. Il a donné une dimension à une espèce d'inquiétude sur Rome-même. C'est que faisons-nous là? Pourquoi sommes-nous là? Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire même qui justifie ce cadre en expansion permanente et menacée? Le christianisme, la prédication chrétienne s'est infiltrée dans ce cadre, et d'autant plus, c'est un point que je n'ai pas eu le loisir de développer vraiment dans le texte, comme beaucoup d'autres, parce que autant le paganisme romain classique de lui-même ne pouvait que se heurter à la révélation chrétienne commençant et qui demeurait peu compréhensible, autant les auteurs chrétiens, très tôt, sont capables, eux, de s'approprier la culture, le langage de la culture grecque que connaissent les Romains. Parce que, justement, et en particulier le platonisme, il se déforme plus ou moins altéré, ça n'a aucune importance, mais la foi dans un royaume de l'autre monde rencontrait le partage platonicien du sortie de l'intelligence. Le vrai monde n'est pas celui des apparences à l'intérieur duquel nous évoluons, il est celui de cet au-delà des apparences qui est le ciel intelligible. Et il va y avoir une sorte de traduction qui s'opère très progressivement, mais qui est de façon assez frappante au Christ, et qui donne aux chrétiens cette supériorité par rapport aux païens d'être capable de parler leur langue qu'eux ne peuvent pas entendre directement. Il y a une sorte de difficulté intellectuelle du discours chrétien platonisé par rapport aux cas traditionnels qui sont eux parfaitement, que les chrétiens peuvent parfaitement comprendre. Les chrétiens peuvent comprendre les romains, c'est-à-dire traditionnels, très bien, alors que ça ne se fait pas dans l'inverse. Et qu'à l'inverse, les romains ont du mal à comprendre les chrétiens. D'où le fait qu'il y a des persécutions. C'est chose bien connue, mais il y a une sorte d'échange intellectuel qui se fait, qui va donner une sorte de voie d'entrée à. Et une réponse à la question ultime, que se passe-t-il si Rome est destinée à mourir? Ce qui devient une refuse assez rapidement dans l'histoire romaine. Comme on voit bien que. Oui, la dynamique impériale est arrivée au bout d'elle-même, et maintenant, elle est défensive. Il s'agit de sauver ce qui peut l'être, mais est-ce qu'on peut se sauver? Est-ce qu'on ne peut pas sauver Rome, quid de la destinée surnaturelle des humains? Et je pense que le christianisme arrive pour répondre à cette question, comme une religion du salut qui est totalement indépendante de la forme politique. Rome peut mourir, la foi chrétienne. Que ça peut être ça. d'une certaine manière, hors quelque sont si destinés à traverser les siècles. Alors, dernière question, et l'Église dans tout ça? Parce que c'est en effet quelque chose de parfaitement familier dans l'histoire humaine, et quelque chose qui est particulièrement incompréhensible aujourd'hui. D'ailleurs, les objections que j'ai eues me sont venues en fait de clercs de l'Église catholique en pétard contre l'institution ecclésiastique, enfin, comment vous voulez utiliser ce truc-là, l'institution qui a tué la foi chrétienne, hein, parce que le cliché qui n'est pas un type véritable, mais un christianisme ouvert, c'est de dire, hélas, j'ai vu, c'était formidable, mais les curés qui ont suivi, c'est la catastrophe. Eh bien non. Et justement, l'Église s'inscrit dans le fil, la création de l'Église s'inscrit dans le fil de cette histoire. Parce que ce noyau chrétien implique un rapport tout à fait singulier au pouvoir de ce monde. Il y a une thèse célèbre, Anstreuch, qui a parlé des chrétiens comme des individus hors du monde, mis hors du monde par la foi dans l'autre monde. Non, les chrétiens ne sont pas des individus hors du monde. Ils sont dans le monde d'une façon tout à fait particulière. La parole fameuse de saint Paul, toute autorité vient de Dieu. Donc on ne discute pas ce qui est établi comme autorité, c'est pas un problème. Mais à côté de cette insertion dans le monde qui se continue, il y a une autre dimension qui est celle qu'ouvre la foi dans l'autre monde et dans le salut futur de chaque individu jusqu'à la résurrection des morts comme horizon final. Et cet autre monde, c'est celui, c'est l'espace propre que va occuper l'Église. À côté de la société existante, sans la contester, cette autorité vient de Dieu, mais en ménageant un espace spécifique pour les gens de foi qui se réunissent dans la foi et qui célèbrent leur foi au travers d'un système culturel, liturgique, qui se met petit à petit en place. Là, dans le livre que vient de publier à Saint-Michel, il y a foule d'études très précises sur ce point. C'est une dernière étape de la science en sujet. C'est pas mon propos. C'est de comprendre le principe même église dans ce récit qui en fait la prolongation de la médiation christique, en fait. Parce que cette société, dans la société et en dehors d'elle, hein, qui va faire le va-et-vient conflictuel permanent de l'histoire chrétienne, hein, avec tantôt d'ailleurs, tantôt la persécution par la société existante, tantôt la tentative de prendre le pouvoir sur la société existante, dans une instabilité qui n'a jamais trouvé son terme, et qui d'une certaine manière se poursuit. Mais pour employer le langage des politologues à propos de ce qu'était le Parti communiste dans sa grande époque, on pourrait parler d'une contre-société. Mais cette expression est inexacte, parce que ce n'est pas une société qui conteste la société existante. Elle n'est pas hostile, elle est simplement en dehors. Mais c'est une société. Hein, les chrétiens ont vocation à faire une autre société à l'intérieur de sociétés qui n'est pas en même temps hostile à cette société. Par principe, c'est une situation de conflit, évidemment. C'est pas dans la formule même. Cette société, il faut l'organiser. Ne serait-ce que parce qu'il faut bien négocier le voisinage avec les pouvoirs établis qui ne voient jamais d'un bon oeil quelque chose qui échappe à leur autorité, d'une manière ou d'une autre. C'est tout l'enjeu ces persécutions à Rome. Ils n'obéissent pas, ils ont leur loi, ils ne veulent pas obéir aux nôtres. C'est ça le grand reproche aux chrétiens. Ce qui est pas vrai. Les chrétiens plaident, mais avec une difficulté certaine, c'est un raisonnement qui n'est pas passé aux autorités en place. Et puis d'autre part, cette société, elle a une vocation particulière, qui est l'interprétation de la foi. Puisque précisément, au cœur, en quoi consiste la révélation chrétienne, en une chose et une seule, la venue du Christ. Et dans l'exemple du Christ, évidemment, dans cette parole qu'il a laissée, mais bien d'autres. En quoi elle est parfaitement mystérieuse. Hein, elle est l'annonce, mais dont le contenu doctrinal reste complètement ouvert. Et l'invention chrétienne, c'est comme ça que d'ailleurs on la comprend généralement chez les historiens athlétiques, c'est l'invention d'une dogmatique, d'une liturgie, d'une... Mais cette dogmatique ne peut pas se clore. Il y a interprétation indéfinie d'un mystère. On ne peut pas dire, voilà l'ultime message qui nous est délivré. Il y aura des tentatives permanentes. Non, c'est celle que contestent les clercs en forme de hérétique par les doigts d'aujourd'hui. Il y a une impression permanente. Et d'ailleurs, ce que l'Église reconnaîtra à la longue, comme la tradition de l'Église, ce sédiment dans un travail d'interprétation où après le problème de l'autorité est de distinguer le mondain du vrai, les hérétiques, les orthodoxes et les degrés dans l'hétérodoxie. Ce qui est l'affaire de l'Église en tant que hiérarchie, une institution au pas très populaire à chez les esprits. un peu confiant en eux-mêmes, disons, pour en plus une formule. Ça. Mais en fait, l'Église est le prolongement du mystère de la venue du Christ. Elle est son complément nécessaire. Pour ceux qui se reconnaissent dans cette révélation, il y a une nécessité de lui donner un contenu développé qui suppose des clercs, hein, c'est pas la notion de la théologie au sens rigoureux du mot, qui est l'explicitation du contenu de la révélation, à la lettre. Et ça donnera, d'ailleurs, une institution qui nous est très familière et qui n'a plus en rapport avec tout ça, qui s'appelle les universités dans l'Occident médiéval. La vocation, précisément, d'être le lieu institutionnel où s'élabore l'interprétation du mystère qui est au cœur de la révélation chrétienne. Et il faut évidemment des autorités capables de gérer tout ça. Alors, c'est là où, effectivement, se met en place une institution d'un genre unique, qui va s'appeler l'Église catholique, qui est en fait, contrairement à l'image qu'on en donne, qui confond deux choses, et qui est parfaitement conforme, à mon sens, à l'esprit de ce qui s'est joué avec l'avènement de Jésus. La critique habituelle, bien connue, hein, on attendait le Christ et c'est l'Église qui est venue. Bon. Cette critique est juste, mais elle confond deux choses qui n'ont rien à voir. C'est le principe d'une institution et la manière dont elle va fonctionner. Nous savons, historique que ce sont deux choses qui peuvent être très très dissemblables. Et je préfère qu'on critique la manière dont l'Église a fonctionné historiquement. Ici, c'est autre chose, et d'en tirer la conclusion qu'elle n'a pas lieu d'exister. Hein, et qu'au fond, une foi purement personnelle, dont d'ailleurs, on verra dans la suite de l'histoire chrétienne, une foi purement personnelle suffit. Aucune religion, il n'y a pas de religion sans société. sans même la plus, la religion la plus fine, la plus construite en principe, une foi, suppose une mise en commun de cette foi. Et la définition d'un groupe de croyants autour de ça. Et de ce point de vue-là, la réforme protestante, qui parle du principe de l'individualisation radicale, avec sacerdoce universel, n'en a pas moins recréé de société religieuse et des églises, qui font d'un pays différent et qui peuvent être en rivalité avec elles, mais qui reconduisent ce principe d'association qui est dans le cœur de ce qu'a été la révélation chrétienne. Bon, on s'arrête là, tout au début, hein, mais je crois que, effectivement, pratiquement au premier siècle de notre ère, hein, un siècle après la venue du Christ, après la prédication de Jésus, on a le noyau de ce qui va devenir la religion chrétienne. C'est ça la notion du christianisme, qui est encore une fois une histoire dont aucun critère positif d'explication économico-sociale ne peut parvenir à rendre compte. Et c'est ça qui, à mes yeux, fait de cet événement prodigieux quelque chose qui ne peut qu'intéresser tout esprit qui veut comprendre comment fonctionne l'histoire humaine. Généralement, effectivement, elle obéit à des considérations beaucoup plus terre à terre. C'est indiscutable. Je vais recourir au type d'explication que j'avance pour comprendre les difficultés dans lesquelles je passe aujourd'hui. Mais de temps en temps, autre chose intervient qui n'a rien de providentiel, à mon sens, qui est tout à fait inscrit dans la nature des sociétés humaines, et autre chose intervient pour changer complètement la figure du monde. Du monde humain, et du monde en général. Et nous avons affaire avec l'invention du christianisme, typiquement à l'histoire de ce genre qui en fait l'intérêt extraordinaire, quelles que soient les croyances que l'on professe par ailleurs.
Chers amis, le débat est ouvert, je vous en prie. Ella.
Je voulais revenir sur un aspect de la personnalité de Saint-Paul, c'est à mon sens le paradoxe qui entretient vis-à-vis des femmes. D'un côté, on peut penser, on peut estimer même qu'il prend une certaine relative égalité entre les hommes et les femmes, mais les dignes ignorent les femmes. Que les femmes créent ou qui ont des fidèles comme les hommes doivent être en premier au Christ avant toute autre personne. Et de l'autre, on sait que Saint-Paul a entretenu une certaine dévorie, diabolisation de la chose charnelle vis-à-vis aussi de la femme. Alors ma question est simple, est-ce que ce paradoxe est explicable uniquement par rapport au fort probable problème que Saint-Paul avait peut-être lui-même ou est-ce qu'il y a d'autres sources, à la fois familiales, religieuses, académiques, je ne sais pas, qui peuvent expliquer ce paradoxe qui entretient les femmes
et sociale, l'ambiance culturelle autour de lui. Et ça, on le sait un petit peu, c'est un politique. C'est un homme soucieux de d'ancrer. C'est pas seulement un doctrinaire, c'est quelqu'un de très habile. Et je pense qu'il cherche aussi à composer avec les mœurs de société ambiante. C'est évident. C'est clair que et de ce point de vue-là, il voit bien qu'il est sur un terrain très dangereux dans le contexte où il évolue. N'oubliez pas, en plus, un contexte méditerranéen, mais ça reste très prégnant. En effet, il y a, et puis vous avez raison, il y a un élément théologique indiscutable qui est ce thème qui est introduit par la chair, hein, qui va être le problème chrétien à travers le siècle. Et alors, on pourrait dire, l'homme aussi, évidemment, il n'empêche que cette doctrine de la du péché, de la chair, de la tentation, de la tombée dans le péché, va jouer éminemment contre le genre féminin. C'est très clair. La femme, c'est la tentatrice, c'est celle qui justement dévoile. On ne voit pas pourquoi les hommes d'ailleurs, parce qu'ils sur le plan logique, je ne sais pas du tout à ce fait, mais c'est bien comme ça que historiquement ça va fonctionner, c'est sûr. Elle a pris ce problème, tout ce problème-là, et c'est ce que lui, comment dire, de la. Le problème que le christianisme n'a pas résolu, encore aujourd'hui, l'actualité montre assez que c'est pas clair, c'est celui. C'est le problème théologique de la hiérarchisation de ce monde et de l'autre monde. Et le signe même de l'infériorité de ce monde, de ce bas monde, c'est effectivement l'esclavage de la chair. Et que Saint-Augustin va radicaliser encore dans un esprit très platonicien en même temps que chrétien. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que se joue l'infériorisation des femmes qui sont du côté des besoins du corps, si je puis dire, la part maudite de l'humanité, c'est la sécheresse. Et là, alors, il y a une tension qui va jouer un rôle énorme dans le christianisme primitif, puisque une des grandes hérésies, ce sera celle de martionnisme. C'est le rejet total, justement, de la chair, une religion d'élite ascétique, mais qui en même temps ne peut être qu'une religion de quelques-uns. Donc l'idée d'une société chrétienne exclue par principe. Mais c'est vrai que là, on est devant quelque chose qui a des racines culturelles et aussi des racines théologiques spécifiques qui seront pas très très tôt.
Oui, c'est déjà un argument, c'est véritablement intéressant, c'est un petit montage souvent. Du coup, j'ai deux questions en une, sur un sujet qui est chronologique. C'est d'abord, on a donc le christianisme qui naît, le grand, évidemment, à partir de Jésus, etc., enfin, au premier siècle de l'ancien Jésus-Christ, donc avec sous Auguste, comme un père par ailleurs, mort de Jésus, et finalement, on a un christianisme qui se rapproche véritablement en Empire romain, beaucoup plus tard, au 4e siècle, enfin, avec Théodose, ensuite à la fin du 4e. Et la question, c'est finalement, la première question, c'est ce qui se passe entre les deux, comment il évolue ce christianisme, comment il vit localement, comment il se développe. Et ensuite, la deuxième question, c'est vraiment très intéressant quand vous dites qu'il se développe effectivement quand l'Empire romain atteint ses limites, et finalement, enfin, l'Empire, et surtout l'Empire, il vit par ses conquêtes, par les conquêtes qu'on fait encore, et à un moment, ça s'arrête, et donc, il faut trouver une nouvelle issue littéraire, un nouveau grand récit. Donc, il s'agit de bien combler ça, c'est très intéressant. Encore une fois, ça paraît très lent, l'Empire romain, sauf que conquête avec des trajons, quand on ne pas la fin, il y a un jeu à faire, on est mis en famille des conquêtes. C'est un très tôt là. L'Empire romain ne se prend plus, c'est 117. Très pourtant, encore une fois, on a un christianisme qui s'impose véritablement au début du 4e. Donc d'abord, qu'est-ce qui se passe entre eux, et comment expliquer cette lente, sinon à s'imposer finalement.
Alors, il y a des événements ou un rôle, mais je pense que le fait fondamental, c'est la lenteur des cheminements spirituels en général. Je n'ai pas la peine d'aller chercher, il y avait des explications concernant, je ne peux pas vous dire, l'histoire romaine dans le détail, mais le point fondamental, c'est l'énorme conversion intellectuelle que supposait l'admission, comme quelque chose de familier, d'accessible, de la doctrine chrétienne dans le monde romain. Je pense qu'il y a un travail culturel qui a été effectué par tous les auteurs, les pères, de l'époque, c'est ce qu'on appelle les termes de l'Église aujourd'hui, au milieu de controverses infinies, qui a, comment dire, implanté en quelque sorte ce message dans un langage qui était intelligible pour d'abord une élite et ensuite un peuple comme celui de Rome qui partait de très loin par rapport à ce genre de conviction. Parce que, effectivement, ceux qui auraient été spontanément les plus susceptibles d'être convertis, il y en a eu beaucoup, c'est les Juifs. Les Juifs de la diaspora qui ont joué un très grand rôle. C'est le judaïsme palestinien qui a un peu bougé, mais en revanche, dans le judaïsme de la diaspora, lui, a eu, d'ailleurs, avec le corps culturel là aussi, un rôle très important. Mais pour les Romains, la distance culturelle était telle que c'est un très lent travail de familiarisation culturelle qui me paraît avoir été le facteur décisif. Parce que c'était une traduction, un véritable travail de traduction. L'exotisme était radical par rapport à ce qu'était leur catégorie sur tous les plans, y compris celui par exemple de cette orientation temporelle de la foi chrétienne par rapport au monde, à la manière dont la pensée antique appréhende la condition temporelle, qui est inintelligible. C'est un très grand sujet. Et qui suppose justement d'entrer dans les, de voir, en plus, de suivre ce travail de traduction dans les textes, qui est quelque chose de fascinant à observer. Question, oui,
j'ai compris. Comment fêtez-vous le besoin d'une papauté, un échange de la papauté?
Ça, c'est un sujet discuté, mais à partir du moment. Là aussi, l'explication assez triviale et fonctionnelle. À partir du moment où il y a un problème là aussi de contexte culturel et de logique fonctionnelle, à partir du moment où vous êtes dans un monde où l'autorité a cette espèce de pouvoir d'incarnation qu'elle emprunte, le pape c'est un emprunt aux églises. Je vais aussi mettre que ça. Il faut un équivalent, sinon c'est pas sérieux. Il faut une figure qui donne sa concrétisation à l'autorité dans un système dans celui-là. Et la nécessité fonctionnelle, c'est la nécessité tranchée par rapport. C'est que cette histoire chrétienne des premiers siècles qui est fascinante, c'est l'intensité de la dispute sur tous les sujets. C'est là où d'ailleurs se met en place tout ce système très singulier qui est le phénomène assez qui n'était propre aux religions de la révélation, c'est l'hérésie. C'est que comme il n'y a pas de message du Christ, le message du Christ tel qu'on traduit saint Paul, c'est trois mots. La foi, croire que Dieu a envoyé son Christ pour salut des hommes, l'espérance, donc salut, et la charité, c'est-à-dire l'application de la loi de l'amour en rapport entre les êtres, qui est la réplique de l'amour de Dieu pour sa créature manifestée par la venue du Christ. La doctrine chrétienne, ça n'est que ça. Mais dès qu'on se met à expliciter ces articles qui paraissent très simples, on entre dans un dédal enrichi par la richesse culturelle qui est celle du monde gréco-romain, qui est là à son apogée culturel, d'une certaine manière, par la fusion gréco-latine qui se joue à ce moment-là. Donc, vous avez une richesse de propositions rivales et des disputes ingénies qui supposent une autorité en mesure de les trancher. Et la papauté est là une nécessité fonctionnelle comme l'instance qui va permettre de trancher, de décider sur des points la conception de l'incarnation, le Dieu qui se fait homme, mais tout en restant Dieu, et est-ce que Jésus, dans le problème tout à fait trivial, mais théologiquement très difficile, est-ce que Jésus, en devenant homme, quitte la divinité, ou est-ce qu'il reste vivant en étant homme? Voilà le genre de sujet dans lesquels on s'écrit, comment trancher? Comment décider ça? Alors effectivement, la mode n'est pas l'autogestion dans ce monde ancien. Ça va beaucoup plus en autorité qu'aujourd'hui. Et donc, l'idée paraît assez simple d'avoir une sorte d'autorité suprême descendante de Saint-Pierre. Elle est alliée comme il faut du point de vue de sa légitimité traditionnelle. Elle est de fondation christique qui va se permettre d'avoir une gestion à peu près harmonieuse de ces divergences qui sont la particularité du christianisme. Donc, dans l'islam, on dit il y a eu 500 hérémies, aucune n'a survécu. Parce que là, justement, c'était pas des papes qui tranchaient, mais voir tout ce qu'il y a de terrestre, tout ce qu'il y a d'armée qui réglait le problème, enfin en termes théologiques, les papes ils font autre chose, ils disent ça c'est hétérodoxe et ça c'est orthodoxe. C'est aussi une originalité chrétienne, parce que c'est d'une certaine manière une légitimation. Et ça va être le permanent dilemme de l'Église. Il y a une légitimité de discussion théologique, elle est dans le principe même de la religion. Et en même temps, il y a une revendication de l'autorité qui veut prétendre succès des canons, mais elle n'y arrive pas. Il n'y a pas d'autorité stable possible en cadre chrétien. Alors il y a des moments où c'est à peu près tranquille, mais ça se réveille infailliblement. La foi de la paix, parce que dans l'idée même de la foi, il y a l'idée d'une interprétation qui est ouverte. Comment pourrait-on la faire? Même s'il faut bien, dans ce monde d'année, une autorité qui, à un moment donné, définit les limites de l'acceptable dans la discussion théologique. Parfait.
Un coup pour poursuivre. Est-ce que justement, vous en avez une partie par code, est-ce que justement la papauté et la mise en place de l'Église en tant qu'institution ne vient pas du fait que justement ce soit à Rome, on voit que c'est un petit peu le contexte actuellement, le titre de contexte qui est défini par le pape et que l'empereur dit lui-même, est-ce que justement on voit des erreurs, une partie des évêques qui ont fait construction de Rome, tous les grands ont suivi justement l'administration romaine, qui sont les erreurs justement de l'administration, en suivant les grands, l'administration romaine a amené directement à créer l'Église en tant qu'institution chrétienne. Justement, la question est-ce que Paul avait, en choisissant effectivement la partie, le géographe a-t-il choisi Rome justement pour que ce soit, ou justement par théologie, justement pour diffuser en utilisant le centre de la. Je sais pas, la question est, qu'est-ce qu'il choisit de base? Vous avez tout choisi pour le centre névralgique de l'Empire ou pour le côté purement administratif de la chose?
Comment trancher? Comment savoir? Là, on n'a pas vraiment, on manque de documents pour trancher cette question. Et je crois que là, l'une des hypothèses ne semble pas exclusivement. Il peut avoir une double pensée. C'est évidemment que c'est Rome qu'il faut conquérir légitimement.
Oui, parce que
si on veut assurer le rayonnement de la foi chrétienne à l'échelle du monde, qu'on connaît, mais il faut passer par Rome. Donc à un moment donné, la montée à Rome est obligatoire. Et en même temps, évidemment, que politique qui est aussi. Il a l'idée que peut-être c'est un concours utile du point de vue de ce qui était déjà de son époque. Hein, il meurt, ça on ne sait pas vraiment, c'est un controverse. La date de sa mort, mais avant, dans les années 60. Alors on a entendu au début des années 60, maintenant chez les historiens, la religion, je ne la fin des années 60, on ne sait pas. Donc, et même à cette date, il a déjà. Sans doute, en fait, une idée d'organisation dont Rome aurait pu fournir une sorte de point névralgique.
Avec la pensée, justement, rompre avec les Jésus quitter la Palestine, oui. Pour faire cause de la pensée.
Alors, lui, justement, il Paul a mis en place le système d'interprétation qui est le développement du christianisme comme développement de ce qui naît en Palestine et qui est destiné à ce qui est une préfiguration de ce qui s'accomplit dans la figure du Christ. Hein, donc pour lui, il a introduit cette idée d'un développement de la révélation, depuis Moïse jusqu'au Christ et au-delà. Et donc, c'est pas un problème, justement, pour lui. C'est ça qu'il a d'étonnant dans un monde de l'époque où le localisme religieux est la règle générale. La première transgression chrétienne par rapport à la coutume religieuse qui était prévalente partout, c'est le déracinement. C'est pas mieux. La foi du Christ vaut partout. Donc je pense qu'il y a même quelque chose de probablement au départ, on connaît bien la géographie de ces voyages et tout, il s'appuie sur le réseau de la diaspora juive. Et puis petit à petit, ça s'élargit, et le couronnement, c'est carrément la transgression d'aller s'installer au cœur du système de domination qui englobe la diaspora, mais qui va bien au-delà.
Oh, oui, je t'en prie.
Juste pour revenir sur la question d'avant sur les femmes, c'est intéressant. Moi, aujourd'hui, typiquement, il n'y a pas de dégagement, il n'y a pas d'hétérodoxie, il n'y a pas d'orthodoxie, le fait qu'il n'y a pas d'église. Enfin, je ne sais pas, c'est un système comparable à l'église. Mais donc, c'est vrai que c'est quand même très paradoxal qu'on fait le comparatif entre les deux. D'un côté, on a un christianisme qui naît dans une périphérie d'un empire et qui finalement conquiert cette ancienne par l'islam, mais justement, qui n'a rien, il n'y a pas d'empire, c'est vrai. Il n'y a pas rien, mais il n'y a pas d'empire. C'est justement, conquérir justement les territoires productifs, la région, et que ce soit finalement christianisme qui ait le droit de mettre en place une institution, une église, etc. Et pas l'islam. Il peut y avoir quelque chose de paradoxal là-dedans. Je trouve, mais donc justement, Rome revendique un pouvoir universel, l'Église aussi, pas finalement une concurrence, ou alors le pouvoir, la revendication universaliste d'Église passe à travers les institutions de l'Empire, comment ça se passe? Parce que finalement, les deux revendiquent une sorte d'universalité.
Ah ben, l'islam, même ça va très loin. C'est la religion naturelle de l'humanité tout entière. Donc l'universalité. D'une certaine manière, dans l'islam, il n'y a pas la dimension de la foi. Il y a une très forte dimension de la piété, mais pas de la foi au sens que le chrétien du mot, c'est la passion en ce cas. Et donc, évidemment, ça change les données comme les conditions, alors là, c'est un mélange de contingences historiques et de problèmes de fond. La religion musulmane est une religion conquérante, alors que qui vise à imposer par la domination politique, alors que le christianisme, la foi dans le prophète et dans la révélation divine, dont il a été le crime. Alors que la religion chrétienne, ça change tout, conquiert de l'intérieur un empire déjà existant, que l'islam fabrique. Hein, cette dialectique de l'empire et de la foi est essentielle dans les deux cas pour créer d'une manière qui est à la fois là, qui n'est pas directement spirituelle, mais qui est un mélange de conjoncturel, qui se trouve que les circonstances ont décidé que cela frappe ainsi, et de fondamental, deux mondes spirituels totalement différents. À partir d'une prémisse commune, et d'autant plus de prémisse commune que les travaux récents, dont il n'est pas prudent de parler en public sous peine d'assassinat, sont clairement apparaître l'islam comme sortant initialement d'une hérésie chrétienne. Hein, c'est toutes les querelles du judaïsme, du christianisme palestinien avec le grandes périodes de législation qui ont donné naissance à une secte chrétienne dont le prophète est issu et qui a réaménagé tout ça extérieurement. Bon, le jour où ça, les gens qui soutiennent ces thèses sont sous protection de police. Ça paraît être bien le cas.
Oui, à partir du moment où le christianisme s'institue à Rome et donne un sens nouveau au projet commun, pourquoi est-ce que l'Empire s'effondre?
Alors, est-ce que le christianisme a fait s'effondrer thèse anticléricale solidement installée depuis le 17e siècle? Où est-ce que l'Empire est mort de sa belle mort, en dépit du christianisme, du concours que le christianisme pouvait apporter à sa survie? C'est un autre, comme vous le savez, c'est une question ouverte et une scène qui ont fait couler des coups d'encre dans la littérature savante. J'ai pas du tout la prétention de répondre à la question, mais personnellement, je ne vois aucun argument plausible du côté du concours du christianisme à l'effondrement de l'Empire romain. Je pense que ce sont deux événements qui ont une logique indépendante. Les chrétiens se sont montrés à l'époque de très vaillants soldats et quelquefois de brillants stratèges même, mais ils n'en suffisaient pas pour sauver un empire dont le mystère de la disparition reste entier. Hein. C'est pas quelque chose, c'est pas une question tranchée. Et on a sans cesse de nouvelles interprétations qui nous arrivent. Alors la dernière qu'on a, histoire 2, c'est Petit Mars. Je vais s'y attendre.
De toute façon, l'Empire continue en arrière.
Voilà,
nous avons une forme théocratique, c'est quand même assez logique d'ailleurs, par rapport à tout ce que vous dites,
oui.
Que la religion devient l'armature d'un système impérial qui finalement dure jusqu'en 1400, je crois. Donc ça fait quand même pas mal de temps. L'Empire suivant, aurait pu bénéficier de la même dynamique et finalement c'était assez logique qu'ils prennent le même chemin et qu'il ait là une armature suffisante pour résister à des effets militaires qui mettaient plus en cause en fait la légitimité du pouvoir, puisque c'était le problème, c'était les effets militaires mettaient en cause la légitimité du chef. Là, ce n'est plus le cas. On peut dire que c'est le plan de Dieu qui fait que... Bon. Et voilà. Bon, clairement, c'est une pure spéculation.
Un des grands un des grands sujets très rarement abordés, très difficiles, c'est là. Et très insuffisamment travaillé, à mon sens, du point de vue de la conscience européenne, aujourd'hui, c'est cette différence du christianisme grec et du christianisme latin. Ça, c'est un sujet prodigieux. Parce que, à partir de l'idée de l'inconnu, vraiment, et de texte même partagé sur le plan théologique, on va avoir deux univers spirituels complètement différents. Et le christianisme oriental, le grec, donc, ne va absolument pas voir se développer les mêmes potentialités que le christianisme latin, qui se met en place dans les écombres de l'Empire romain. C'est quelque chose de... Cette comparaison me semble, d'ailleurs, passionnante d'un point de vue historique, parce qu'elle montre, de manière générale, qu'à partir de prémices parfaitement communes, on peut avoir des lectures qui, historiquement, totalement différentes. le christianisme oriental est un christianisme à la fois de l'empereur et des moines. C'est eux qui donnent, ce sont les moines qui donnent le son du christianisme oriental. Alors que le, si je puis dire, le christianisme occidental, très tôt, en partie à cause de l'effondrement de l'Empire, justement, devient, le meilleur mot qui me vient, c'est un christianisme pastoral. C'est-à-dire qu'il ne vise pas à ce que, à la perfection monastique, parce que l'idéal monastique, c'est l'idéal ascétique, ce sont des champions, en quelque sorte, de la foi, par rapport à un peuple dont on s'occupe modérément. Le christianisme occidental m'a développé à l'inverse un système d'encadrement des fidèles extrêmement poussé, la paroisse, une fève, qui va recouper rapidement, d'ailleurs, l'administration romaine. Hein. Les prélats sont quelquefois, d'ailleurs, des dignitaires de l'Empire subissant, etc. Ces deux mondes qui vont diverger, mais de façon stupéfiante, quand on y pense, parce que, justement, on aurait pensé à une sorte de convergence qui va aboutir vers, chez Chauve Marquard, un divorce officiel. On se sépare, on admet que c'est pas, on ne peut pas travailler ensemble. C'est quelque chose un des grands problèmes historiques qui n'est jamais traité vraiment sérieusement.
Ces chemins divergents entre l'Orient et l'Occident, c'est pas inhérent finalement du christianisme, puisque vous avez brillamment expliqué dans l'exposé que justement le christianisme n'est pas ni une loi, ni une révélation, mais un mystère, donc un mystère à fonder, et en plus de ça, même d'un point de vue textuel, il porte le débat en soi. Dans ce moment, il y a les évangiles, donc des interprétations différentes de la vie de Jésus, mais vous ne pouvez que partir dans des directions différentes, et finalement, il y a un génie du christianisme peut-être, déjà d'Orient, mais il y a peut-être un génie du catholicisme, c'est-à-dire qu'il est arrivé avec cette église à fédérer quand même à grande échelle une pensée qui est un peu homogène.
Oui.
Mais ça n'empêche pas qu'il y a plusieurs christianismes.
Oui, non, mais oui, vous avez tout à fait raison, bien sûr. L'étonnant, il y en a eu là, relativement unitaire pendant quelques longs siècles, là au fond, une dizaine de siècles.
Alors, c'est important. Bon, c'est important. Oui, même, juste avant et encore avant, sur l'Empire romain, sur l'Empire romain, c'est vrai que pour le coup, pour les contemporains, ils disent, pas réellement, il y a, en France, la Thierry, ils passent par, finalement, il y a toujours l'Empire grec et roumain, on a la Byzance, et puis, on a après l'ancien de Charlemagne, et puis toujours l'ancien roi, à l'époque. Et donc voilà, c'est juste sur le. C'est très intéressant, je pense, entre évidemment le christianisme latin et le christianisme grec, pour le coup, c'est ce que j'étudie en ce moment à la fin, donc c'est vraiment, on en parle un petit peu, mais j'étudie un peu. Et moi, ce que je pense, c'est pas encore cette question d'universalité qui finalement. D'universalisme, et encore, mais qui finalement différencie peut-être un petit peu les deux, qu'au-delà des différences sur la barbe, le port, le curé, sur le fait que, on dit bien que la église le dimanche, on bouge un petit peu, il y a aussi cette dimension du pape, encore une fois, de Rome, qui veut absolument cette universel, qui prétend dominer aussi l'église d'Orient, donc qui est au-dessus de tout, et qui est en concurrence avec l'empereur, alors que de l'autre côté, on a le basileus qui est au-dessus du patriarche, qui est un patriarche. Cette dimension plus universaliste qu'il y a en Occident qui permet d'expliquer
c'est inhérent d'ailleurs à l'absorption de l'Église dans l'Empire, dans le monde de Byzance. Comme le christianisme est dans l'Empire, il est la religion de l'Empire, il s'ethnicise, il se. Si je puis dire,
le christianisme particularise comme la religion de l'Empire. Alors que le christianisme latin va d'anglais à avoir affaire à une pluralité de communautés politiques. Et donc, ça va, il y a des royaumes francs, il y a une bigarrure assez considérable des principautés, des duchés, c'est vraiment assez compliqué. Hein, on a encore du peu de temps à reconstituer. Donc, d'emblée, la décomposition de l'Empire confond le christianisme latin à la gestion d'une pluralité. Il est porté à l'universalisme, si je puis dire, par le fait qu'il doit coiffer une diversité d'unités politiques avec lesquelles il doit négocier parfois des conditions ajoutées parfois pour réussir à s'implanter. Donc je crois que ça joue un rôle énorme, si vous voulez. Le christianisme orthodoxe va se figer dans cette structure impériale, alors que la dynamique universaliste va être accentuée par la nécessité de composer avec toutes sortes de, y compris diplomatiquement, avec la correspondance des pas des premiers pas, avec tout ça, c'est en moment. Mais voilà. Donc, ça suffit à expliquer cette divergence, je pense, en effet. L'universalisme est fonction du fait que les conditions d'application ne sont pas données pour les construire.
Excellent. On en vient plus naturellement à mes questions, c'est qu'on a parlé de ce chiffre géographique, mais ce qui est très étonnant, c'est la continuité des valeurs chrétiennes au fil du temps. Parce qu'on pourrait dire qu'au bout de 100, 400 ans, ça pourrait s'éteindre. Et donc, comment on peut expliquer la grande résilience des valeurs chrétiennes face au changement dans les sociétés?
Alors, ça, c'est une question qui mérite vraiment qu'on y réponde, sans prétendre pouvoir l'étudier. Je crois que ça tient précisément à la source chrétienne. C'est tout simplement, au-delà de toutes les élaborations théologiques sophistiquées qui vont se mettre en place, qui prennent quelques... la patristique, quoi, ça dure, quatre siècles, cinq siècles, à peu près. Ça continue de former une tradition, mais ça s'arrête à un moment donné quand même, c'est un peu court. Mais la source chrétienne, c'est le mystère de la vie de Jésus, c'est l'incarnation. Et donc, il y a une espèce de réactualisation permanente de la source, parce qu'elle n'est jamais donnée, si vous voulez, dans un texte. Il y a une loi mosaïque, avec la situation rabbinique du premier siècle, on a quelque chose de très stabilisé, même si ça va faire l'infinité d'interprétation. De la même façon, dans l'islam, on va avoir très vite une sorte d'immobilisation, quand même assez rapide, dans un corpus très légal, en fait, plus que jurisprudence. Là, parce que la source a été donnée une fois pour toutes. Dans le christianisme, il y a une source qui ne peut pas être enfermée dans une définition dogmatique, quelques tentatives qui soient faites pour que ce soit le cas. Et donc, ce que vous appelez les valeurs, juste titre, c'est-à-dire que ce n'est pas un dogme. Il y a des postulats, qui a tout un travail laborieux. Mais il y a au-delà une sorte, il y a d'abord l'exemplarité du Christ, et qui va être l'imitation de Jésus-Christ, ça sera thème permanent, puisque c'est un homme. Donc en tant qu'homme, il est avec nous. Et puis il y a au-delà le mystère de ce que représente sa venue parmi les hommes. Sur quoi une espèce de réflexion permanente peut s'exercer, qui travaille beaucoup plus efficacement que la définition d'un legs qui serait une fois pour toutes arrêtée. Il y a une source constante, si je puis dire, c'est la force tout à fait particulière du christianisme à travers l'histoire.
Chers amis, on va remercier Marcel Bouchet pour toutes ces explications.
J'espère qu'il reviendra bientôt, car pour parler de toute autre chose, à droite et à gauche, Macron et son ami, etc. La semaine prochaine, nous resterons dans le domaine un peu religieux pour parler dans le cadre donc des guerres de religion. C'est un autre aspect, la dynamique un aspect violent, comme vous le savez, avec nous recevons donc Jean-Christian Petit-Fils. À très bientôt. Merci.